Bon, étant donné que nous venons de différents coins, de différentes organisations, je crois que ça serait bien de parler un peu de le travail fraternel, le travail qu'on fait ensemble. Pas seulement, on parle souvent du communion fraternelle, mais il faut aussi parler du travail, parce que c'est pour cela que nous sommes ensemble. Alors, je vais baser tout ce que nous disons sur le psaume 133, que vous connaissez bien, mais à partir de cela, nous allons voir aussi d'autres passages bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler de comment travailler ensemble. Demain, on va voir un mauvais exemple du travail ensemble. Et jeudi, nous allons discuter la raison pour laquelle on devrait travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un bon exemple. Demain, ce serait un mauvais exemple. Et je dis la raison pour laquelle nous le faisons. Bon, avec cette petite introduction, prions. Seigneur, nous te remercions que tu nous as donné ta parole, que tu ne nous as pas laissés seuls à inventer ou bien imaginer comment nous devons vivre. Mais tu nous as donné ta parole vivante qui nous guide, qui nous explique, qui nous aide et parfois qui nous corrige. Alors aide-nous maintenant, Seigneur, à lire ta parole et comprendre ce que tu veux que nous comprenions de ceci. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 133. Il est bon qu'il est agréable pour des frères, et j'ajoute des sœurs, d'être ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête de l'invité et qui descend jusqu'à sa barbe. C'est comme la barbe du grand prêtre qui descend jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sous les hauteurs de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. J'espère bien que, en venant ensemble ce matin, nous nous sommes dit qu'il est bon d'être ensemble. Parce que c'est la vérité. Quand les chrétiens sont ensemble, Jésus nous a donné sa promesse que lui, il serait là. Quand il y a deux ou trois, il est là. Parfois, nous prions, Seigneur, que tu sois là au milieu de nous. Il est là déjà. On n'a pas besoin de prier. Il a fait sa promesse. Ce que nous devons prier, c'est que nous soyons reconnaissants de sa présence, que nous le voyons parmi nous. Il est là. Que nous soyons assurés. Jésus est ici parmi nous et il est bon que nous soyons ensemble. Mais nous devons travailler ensemble aussi. Nous n'allons pas passer seulement 3 jours à être ensemble, à être contents, à causer, partager les nouvelles. Ça serait bien, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous sommes là afin que nous travaillions, afin que nous accomplissions quelque chose pour le Seigneur. Et de cela, pour cela, je voudrais tourner notre regard vers l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2 que vous connaissons tous très bien. Et je vais lire de verset 2 jusqu'à verset 11, je crois. Oui, 2 à 11. Alors, je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres et que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous le sentiment qui vient de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est le plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Paul nous dit, alors, je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord. Paul dit qu'il serait heureux si les chrétiens se mettent d'accord. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je voudrais bien que l'apôtre Paul soit content de moi. Et nous savons que si Paul, il serait content, que Jésus aussi serait content. Alors, que nous rendons Paul heureux en se mettant d'accord, en ayant le même amour. Il dit que nous devons avoir le même amour. Ça veut dire, entre nous, nous devons aimer les mêmes choses. Afin que ça se passe, il faudrait d'abord que nous passions du temps ensemble. C'est impossible que nous avons un même amour, que nous nous aimons les uns les autres, que nous aimons les autres aussi, si nous ne passons pas du temps ensemble. Si les collègues des autres organisations se gardent toujours dans leur coin, c'est impossible d'avoir le même amour. Alors, Paul nous donne ce défi d'avoir le même amour. Mais il faut aussi se rappeler que l'amour est une action de la volonté. L'amour chrétien n'est pas comme l'amour romantique. Vous savez, les feuilletons à la télévision, il y a un jeune très beau, très fort, une jolie dame. Il se passe dans la rue, il se regarde et tout de suite il tombe amoureux. Le volonté n'est pas dedans, c'est quelque chose qui vient comme ça. Mais pour le chrétien, l'amour vient de la volonté. Parce que parfois, il y a des choses dans les autres que nous n'aimons pas. Parfois, les frères et les sœurs peuvent nous blesser. Mais Dieu nous demande de les aimer. Il faut, du matin au soir, que nous prenons le temps et l'acte de volonté des aimer les uns et les autres. Peut-être les frères et sœurs d'Antpa ont raison d'avoir des suspicions au niveau de la cible, ou le contraire. Mais Dieu nous dit de nous aimer les uns et les autres. Et il faut un effort de volonté. Il faut chercher à pardonner. Il faut même si le pardon n'est pas demandé, ayant un même amour. C'est une parole qui est assez forte. Mais Paul souhaite que nous ayons le même amour. Mais sachons aussi que l'amour vient de Dieu. Moi, je ne suis pas capable de vous aimer. Vous êtes aimables. Vous êtes des hommes, des femmes qui sont tout à fait aimables. Mais sans l'amour de Dieu dans ma vie, je ne suis pas capable de vous aimer comme je devais. Et chacun entre nous devrait demander continuellement au Saint-Esprit de nous aider à aimer nos frères et nos sœurs comme nous devons, comme nous sommes appelés à les aimer. Ayant un même amour, continue à lire, on a un même amour en étant unis de cœur. Ou bien, dans d'autres traductions, il écrit, on a une même pensée. Nous devons penser parfois de la même façon. Ça ne veut pas dire que nos pensées individuelles, que nos personnages vont disparaître. Mais nous devons penser dans les mêmes lignes. Et encore, ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que nous sommes identiques. Je ne souhaiterais pas que vous deveniez comme moi. Mais ça veut dire que sur les affaires de Dieu, sous l'œuvre de Dieu, nous devons partager les pensées et on peut seulement partager les pensées si on passe le temps à partager les désirs, les encouragements. Et on a un même amour en étant unis de cœur et d'intention, d'avoir la même intention. Paul dit que nous devons avoir la même intention, le même but, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que les buts d'une organisation doivent être pareils aux buts d'une autre organisation. Nous avons nos spécifiques. Ça, c'est bien, ça, c'est nécessaire. Mais le grand but, le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, nous devons partager cette intention. Peut-être il y a une organisation qui va arriver, qui va montrer la gloire de Dieu à travers le travail linguistique. Une autre qui va montrer le royaume des cieux à travers l'alphabétisation. Nous avons nos spécifiques. Nous avons des œuvres auxquelles nous sommes appelés pour chaque organisation. Mais nous devons avoir la même intention finale, qui est que notre Dieu soit glorifié. Et Paul nous donne un exemple de comment nous devons vivre de cette façon. Comment chacun d'entre nous devait vivre afin qu'ensemble nous arrivions à ce point. Et je vais vous lire simplement encore les versets 4 à 11 de Philippiens chapitre 2. Je ne vais pas en faire un commentaire parce que les paroles sont déjà puissantes et n'ont pas besoin que je les explique. Que personne ne cherche à son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de notre Père. Que Jésus-Christ lui-même nous aide à être humbles comme lui-même a été humble, afin que tout être, pas seulement sous la terre, mais tout être, au Burkina Faso, sache que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen.